Vous écoutez
RMC. RMC, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Salut à tous, le Moscato Show continue pendant les vacances. On est ensemble jusqu'à 18h avec Adrien. Salut Adrien.
Salut Pierrot, on est là bien là.
Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme? On va revivre le titre de La Rochelle, le titre de champion d'Europe de La Rochelle avec le capitaine emblématique Romain Sazy qui était notre invité juste après le titre des Rochelais. Et puis nous allons débattre aussi de La Rochelle, bien sûr, puisque La Rochelle va-t-il enchaîner avec le top 14? C'était la question qu'on se posait avant les phases finales.
Avant les phases finales.
Et maintenant, on a la réponse.
C'est toujours très instructif de revivre ces débats quand on sait ce qui s'est passé après.
Au programme également, l'OM,
oui,
qui finit deuxième du championnat. Est-ce que l'avenir est radieux? Bah ça, on va le savoir dans les prochaines semaines. Nous allons parler de Messi, de Giroud et de la Coupe du Monde, bien sûr, du PSG qui veut faire sa révolution. Qu'est-ce qu'on a dans apostrophe, Adrien?
Oh, magnifique, le clash télévisuel de l'année, souvenez-vous, entre Luc Ferry et Cohn-Bendit, de vieux routiers de la politique en France. C'était sur une chaîne info. C'est parti à l'insulte, hein, Pierrot.
Oui,
carrément. Enfin, c'est comme ça.
Ça volait pas très haut.
Pas d'accord.
C'est à 15h45. Alors, on va démarrer avec Eddie Jones. Eddie Jones, donc, qui a priori en a fini avec la sélection anglaise. Aura-t-il marqué l'histoire du rugby? Vincent a réglé le problème en tout début de saison, le 23 septembre.
Hello Eddie, it's Bernard. Nice to meet you.
Dis donc, toi, faut que tu l'appelles Dr. Jones.
Mais tu te racontes ou quoi? On est en bas de qui? En bas de qui?
Le Dr. Jones a trouvé Norachi pour moi et il est ici pour me le remettre tout de suite.
Eddie Jones, il n'y avait plus d'explication de jeu à rebondissement et compagnie, il n'y avait plus rien.
Dr. Jones, un serpent me paraît moins dangereux que vous.
Pour les joueurs français, il y en a deux belles choses. Faire un grand chelem et priver les Anglais d'en faire un.
Jones est en quête du Graal, la recherche la plus importante de sa vie.
Je le prends, Eddie Jones, je le tombe par terre, toi, coup de la tête.
RMC.
Moscato, il va te le régler le problème.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté l'original de Nice Too.
Mais oui, mais je me souvenais plus que c'est Bernard Nice Too. Je croyais que c'est Vincent.
Non, c'est Bernard Nice Too.
Bah, Nice Too. Nice Too.
Oh là là. Oh, bien, bien. C'est le spécial rugby du jeudi. Et donc on a appris qu'Eddie Jones arrêtera ses fonctions de sélectionneur de l'Angleterre après la Coupe du Monde 2023. Il aura 63 ans et une très belle carrière d'entraîneur. Il n'a pas annoncé sa retraite, hein, on est bien d'accord. Simplement qu'il arrêtait avec le 15 de la Rose. Plusieurs titres au palmarès, mais pas à l'heure actuelle en tout cas, de Coupe du Monde. Aura-t-il marqué l'histoire du rugby, Eddie Jones? Vous appelez le 32-16 si vous souhaitez débattre avec la Dream Team, avec le fan numéro 1 d'Eddie Jones, Vincent Moscato par exemple. Nous sommes avec Jeff Paturo.
Salut Pierre, bonjour à tous.
Parce qu'on va pas faire ce débat dans le vent, on va rappeler quand même.
Quelle nouvelle pour Vincent quand même.
Que il arrête.
Bah oui.
Il s'arrêtera pas, il va rebondir.
Il va bien Galtier en plus après.
C'est du haut. Jamais. Vas-y, vas-y.
Tu imagines quand même les Anglais qui viendraient gagner notre Coupe du Monde chez nous.
Arrête, Pierrot.
Je pense que c'est la chose la plus horrible qu'on vivrait.
Non, mais c'est vrai.
C'est sûr. Les mecs, vous ne gagnez pas une. Les Anglais viennent te la gagner avec cette pompe d'Eddie Jones chez toi, la pire.
Avec quoi, avec Farrell,
Vincent. Avec Farrell, je vais te casser pendant 3 mois.
Sur le drop à la dernière minute.
Un essai dans lequel il a le temps de regarder la caméra pendant qu'il plonge.
Arrête,
Pierrot. Le drop de stade. Comme Johnny Wilkinson.
Il fait tour de stade porté par ses joueurs. J'arrache un siège, j'y jette sur la tête.
Ah bah tiens, on va en parler à 17h. Du coup, on retient cette phrase, Vincent. Hein. Bon, alors, Eddie Jones, la carrière essentiellement d'entraîneur, parce que c'est surtout là qu'il s'est distingué. Hein,
oui, pas en tant que joueur, mais c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, c'est une carrière riche, internationale. Vraiment, c'est impressionnant pour le meilleur ami de Vincent Moscato, car oui. Eddie Jones a tout connu depuis ses débuts d'entraîneur. D'abord en Australie, à l'International Grammar School. De Sydney, désolé pour l'accent. Il rencontre alors sa femme, une japonaise, et le Japon, c'est vraiment une passion pour lui. Après, il prend la direction de ce pays, notamment pour les Sun Goliath. Retour en Australie, au Brumbies, vous allez me dire, bon, c'est pas énorme. Sauf qu'après, il prend les commandes des Wallabies, finale de Coupe du Monde 2003. Heureusement pour Vincent, il la perd contre l'Angleterre, justement, face pour cette
Merci
finale avec Johnny Wilkinson. Après, retour en Angleterre, Afrique du Sud, il devient, faut le rappeler quand même, adjoint du sélectionneur Jake White. Et les Bucks remportent la Coupe du Monde 2007 au Stade de France. Donc pour l'instant, le palmarès, c'est pas mal. Il retourne en Angleterre, Japon, équipe nationale, cette fois Coupe du Monde 2015. Petite victoire historique, tout simplement, contre l'Afrique du Sud, avec cette sélection japonaise. Et depuis, il régale les fans ou pas de l'Angleterre, depuis 2015. 3 titres dans le tournoi destination, dont un grand chelem en 2016. Une finale de Coupe du Monde, grâce notamment à cette demi-finale impressionnante, homérique, héroïque contre la Nouvelle-Zélande. C'est un des plus beaux matchs de l'histoire. Depuis, c'est un peu plus compliqué.
C'est qu'il faut faire.
Ouais, depuis, c'est un peu plus compliqué. Seulement deux victoires dans le tournoi cette année, dans le tournoi 2021. Les critiques sont de plus en plus nombreuses. Lui est serein, 61 ans. Il dit tout simplement, je n'ai jamais été aussi tech que ma vie pour les deux prochaines saisons.
Bravo. Parfait. Alors, Eddie Jones, donc, Vincent, quel que soit le résultat, bien sûr, de la Coupe du Monde 2023, est-ce qu'il aura, selon toi, marqué l'histoire du rugby?
Du rugby mondial?
Ben oui.
De l'histoire du rugby.
Ma foi. Non, du rugby mondial. Non,
du Gers.
De Gaillac. Mais non, mais du rugby anglais. Mais non.
Bah, les gars, après, c'est vrai que c'est pas. Non,
du rugby mondial.
C'est pas.
Non, là où Vincent a raison, c'est que c'est vrai que c'est pas un sport mondial, donc on peut pas parler de.
Quand tu fais deux finales de Coupe du Monde avec deux sélections.
Je me pose la question, as-tu marqué l'histoire du rugby mondial ou anglais?
Mondial.
L'histoire du rugby anglais.
L'histoire du rugby.
Mondial. Mondial de quoi? Mondial.
L'histoire du rugby.
Mondial de quoi?
Mondial de
quoi? Il était entraîneur. Il était mondial. Mondial Moquette, il a marqué l'histoire de Mondial Moquette si c'était sponsor de l'Angleterre.
C'est tout.
Mais
alors, vas-y, argumente du coup.
Mais argumente. Alors lui, il a marqué l'histoire mondiale. Après, l'entraîneur néo-zélandais, il a marqué l'histoire mondiale. L'entraîneur sud-africain, l'entraîneur australien, tous les entraîneurs qui ont été champions du monde, eux, en tête, ont marqué avant lui l'histoire mondiale. Parce que lui, il n'a pas été champion du monde. Il a été comme en 98, le chauffeur du bus avec du guerrier et tout ça. Lui aussi était champion du monde. Au football, tout le monde est champion du monde parce que là, tout le monde est content. Donc tout le monde fait le grand rond, on est tous très fiers d'eux. Mais donc Eddie Jones, bien entendu, il aura marqué l'histoire du rugby, mais à sa manière, il aura gagné un Grand Chelem, comme nous Jacques Fourroux, comme Bernard Laporte, comme les autres, pas plus. Bernard aura marqué avec trois coupes d'Europe, avec trois coupes, mais bien entendu.
Et combien de finales de Coupe du Monde?
Et l'entraîneur de ça, mais la finale de la Coupe du Monde, mais demi-finale, finale, la finale, tu la gagnes ou tu la gagnes pas. Qu'est-ce que tu me racontes d'une finale? Il a été ridicule contre l'Angleterre. Mais vous décollez ou quoi? Les entraîneurs en club, l'entraîneur de Saracens, ça a plus marqué. Avec les Saracens, ça gagne les Coupes d'Europe. Je ne vais pas citer Bernard, parce que là,
il a marqué l'histoire du rugby européen, pas mondial, quand tu gagnes la Coupe d'Europe.
Si lui a marqué l'histoire mondiale, la porte l'a marqué. Jacques Fourcq l'a marqué, tout le monde l'a marqué.
Guinovès
l'a marqué avec le Stade Toulousain. Ouais. Il n'a pas marqué au niveau international, mais il a marqué l'histoire. Si pour marquer l'histoire, il faut faire un Grand Chelem et faire des raisonnements dans la presse, même moi je l'ai marqué sans Grand Chelem, mais avec des raisonnements dans la presse.
Très bien. Tu l'aimes pas, Eddie Jones,
c'est ça. Mais c'est pas que je l'aime pas. Il a l'air.
Moi, j'ai fait un hammam avec lui, donc je le connais bien.
Est-ce que dans le hammam,
tu regardais peu. Non, alors il y avait de la brume. Je voyais pas grand chose. Tout d'un coup, il m'a.
À un moment donné, j'ai senti, il y a deux derrière, quoi.
Oui, c'était pas le cigare de Jordan. Non, mais après. Après, il a forcément quelque chose de spécial, mais moi, ce qu'il a fait au Japon, pour moi, reste
historique.
Extraordinaire. Pour moi, historique, évidemment, mais c'est extraordinaire. J'ai un peu côtoyé avec Eddie Jones quand on a fait le tournée les Babas en 2012. Il a entraîné le Japon, on s'est vu tous les soirs pratiquement. J'ai passé de grands moments avec lui. C'est quelqu'un qui est quand même très atypique, qui est passionné de rugby, comme Fabien. On picolait pas, mais il est très intéressant et puis il connaît parfaitement le rugby. Voilà, c'est pour moi, c'est un très très grand technicien. Alors il n'a pas gagné de finale de Coupe du Monde, mais il en a fait deux. La première, c'est après prolongation. S'il la gagne, c'est pareil. On y était, Vincent. Souviens-toi, en 2003. Ça se joue à rien contre l'Angleterre, un coup de dé, puisqu'il y a les prolongations.
Contre une équipe mythique, contre un joueur, peut-être
voilà,
meilleur
contre
de
un
tous
joueur
les temps.
Hors norme, tu as raison de le préciser, qui était Johnny Wilkinson. Après ce qu'il fait avec l'Angleterre.
Pas une équipe moyenne d'Angleterre.
Il y a un autre fait marquant, c'est pour moi, c'est la demi-finale il y a deux ans contre les Blacks, où là, vraiment, il y a un match référence extraordinaire.
C'est pas référence, c'est le plus beau match de l'histoire du monde.
C'est un match exceptionnel.
Avec la finale 2015,
tu as raison de le dire, mais pour parler d'Eddie Jones, voilà, c'est quelqu'un qui marquera l'histoire, forcément. J'espère qu'il va pas gagner la Coupe du Monde parce qu'il n'en est pas jamais été très loin et que là en France il va être motivé, il aura une belle génération d'anglais, il aura une très belle équipe anglaise compétitive.
Il a loupé, mais
on sait jamais.
Alors moi je vais te le dire.
On a parlé d'Eric encore.
Ah bon, vas-y Eric.
Non mais vas-y, continue.
Ce qui attachera, c'est d'avoir loupé.
comme Bernard Hamdemir, oui, d'avoir le père final. Oui, parce qu'elle ne se représentera pas. Elle ne se représentera pas, ne te trompe pas. Ils ne sont plus équipés pour, ils seront en dessous de nous. Ils seront en dessous de nous.
Mais pour finir, moi, c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup d'admiration. Beaucoup, pour plein de raisons, mais... Voilà, j'espère une chose, c'est qu'il nous battra pas en finale en 2023. Voilà.
Alors Eric, est-ce qu'Eddie Jones aura marqué l'histoire du rugby ?
Et comment ? Et malheureusement pour nous et pour Vincent.
Toi aussi t'as fait sur la réunion.
Ouais, la seule différence c'est que moi dans la brume j'ai rien vu, mais lui il a vu, hein, dans la brume.
Donc, quel prétentieux. Il devient fou complètement.
Lui ça se souvient toujours parce que dans la brume il a vu. Hein. Moi je te le dis.
Et donc non mais bien sûr, mais parce que contrairement à d'autres, puisque Vincent nous cite de grands entraîneurs dont son meilleur ami, bon, c'est normal, son meilleur ami, mais contrairement à d'autres, moi ce qui m'a impressionné, alors pour moi, quand tu fais ce parcours-là, c'est-à-dire que tu vadrouilles un peu et que tu as autant de résultats, gagner ou pas gagner, ça veut dire que tu as quelque chose en plus. Et puis ce qui m'a impressionné le plus, c'est ce qu'il a fait avec le Japon, mais souvenez-vous quand même, ce qu'il a fait avec le Japon. C'est parce que moi, c'est plus dur de faire ce qu'il a fait lui avec le Japon que d'aller gagner avec la Nouvelle-Zélande, voire même avec l'Angleterre. Hein. C'est-à-dire que rappelez-vous comment on s'est régalé devant les matchs du Japon, on en a fait des débats, c'est devenu un phénomène de société, et moi je regrette. Pour entrer dans la légende, tu n'es pas obligé de gagner une finale, au contraire, parce que des mecs qui gagnent des finales, il y en a un tous les 4 ans, et les mecs qui gagnent les finales, ils ne sont pas tous dans la légende, parce qu'ils ont gagné avec des équipes.
Est-ce que vous êtes capable de dire qui est le sélectionneur champion du monde en titre ?
Champion du monde en titre, donc là les
Sudanais. Mais ça, ils ne savent même pas qui est champion du monde. Déjà.
On ne se souvient plus de son
titre.
C'est Erasmus. On est obligé de réfléchir, de s'employer pour trouver son nom.
Mais quand tu parles du Japon,
tout le monde le connaît.
Et moi, mais quand tu parles du Japon, Eric, c'est surtout le jeu qu'il a mis en place.
Mais c'est ça.
C'est-à-dire que c'est la façon de jouer, d'évoluer.
Le jeu par rapport aux caractéristiques des Japonais, par rapport aux équipes contre qui ils jouaient. Mais ça, c'est énorme. Et moi, je suis désolé. La demi-finale des Anglais contre les Blacks, c'est pour moi le sommet du rugby. C'est-à-dire que je me suis mis devant ce match-là. Tu respires pas pendant 80 minutes quand tu vois ce qu'ils ont fait ces mecs-là. Et après, quand tu perds la finale et que tu as fait ce match en demi-finale, moi je dis respect, ça veut rien dire. Et je le répète, tu as des mecs qui ont été champions du monde, qui ne seront jamais dans l'histoire du rugby parce qu'ils ont gagné avec, ils ont rien apporté au rugby, ils ont rien gagné. Et le chauffeur du bus, comme dit Vincent, aurait gagné. Ouais. Mais quand tu as fait deux, comme il en a fait lui de finale, quand tu as participé à une victoire à un moment donné, d'après moi, quand il a participé à la victoire de l'Afrique du Sud, et il a dû être partie prenante parce que dans ce sport-là, puisque bon, mais ils ont beaucoup de cerveau, ils sont obligés d'avoir beaucoup
d'entraîneurs. C'est la joie de Jack White.
Voilà, donc ils sont tous très intelligents dans ce truc, ils sont obligés d'avoir beaucoup d'entraîneurs.
Il est allé chercher.
Et donc, c'est. Ce qui est terrible, c'est que de ne pas reconnaître ça, c'est de manquer de respect à ce sport noble. Donc, surtout presque une preuve de méconnaissance. C'est une preuve de méconnaissance de ce sport ancestral.
Si lui, alors Vincent, je te pose une question.
En parlant de sport noble, est-ce qu'on pourrait pas attaquer le débat de 17h à 16h30?
C'est lui qui est allé chercher ton ami Dalmazou aussi.
Je te pose la question à l'inverse, Vincent. Si tu fais un top 5 des entraîneurs qui ont marqué l'histoire du rugby mondial, est-ce que tu le mets quand même dedans, dans le top 5? On dit pas celui qui a le plus marqué l'histoire, mais un top 5.
Mais dis-lui de nous faire la liste sur tout.
Qui seraient les entraîneurs qui ont marqué l'histoire du rugby mondial?
Moi, je vais te dire un truc. On va parler en termes de résultats. Tout simplement, on va prendre que des Français. Et je vais te dire, tout simplement, Jacques Fouroux, de Grand Chelem, une finale de Coupe du Monde. Déjà, il est au-dessus. Rien que Jacques, en France, tout simplement. Moi, je veux bien que vous me fassiez. Vous avez un ressenti des choses. Vous ressentez les trucs. Vous, ça vous fait plaisir. Vous m'écoutez, non?
Mais attends, ça vous fait plaisir.
Quand tu dis pas des conneries et quand t'écoutes, c'est le meilleur. T'as l'air surpris. Mais moi, des mecs qui ont fait les finales, c'est pas les mecs qui gagnent.
Fouroux, je suis content. Je suis d'accord avec toi sur Fouroux.
Alors, lui, il a marqué l'histoire.
Woodward,
il a marqué l'histoire.
Tu l'appelles?
Oui.
Woodward, il a marqué l'histoire. Okay. Ensuite, l'entraîneur Jack White, il a marqué l'histoire. Graham Henry, oh, alors lui, il a marqué Jack l'histoire. White, les Gallois, comme fait les Grand Chelem, l'entraîneur gallois qui a fait deux ou trois Grand Chelem dans les années.
Arrête de parler des Grand Chelem, on parle mondial.
Mais il y en a 15, 20 comme lui. Vous me prenez un mec qui me dit il a marqué l'histoire. Comme 20 autres entraîneurs ont marqué l'histoire. Alors, d'accord, il a marqué l'histoire. Mais rajoutez, comme 25 ou 30 entraîneurs depuis.
Il n'y en a pas 30. T'as pas cité Bernard Laporte.
Mais Bernard, trois fois champion d'Europe, il fait des demi-finales. Voilà, il fait deux grands Chelem avec le machin, quand même. Il est déjà au-dessus. Donc, quand même. Est-ce qu'il a été ministre en Australie? Non, même pas.
Il y a quand même quelque chose qui est quand même fascinant. C'est la longévité. Tu fais finale de Coupe du Monde en 2003, t'en fais une deuxième en 2019. Ça veut dire que le mec se remet toujours à la page. Ouais, il s'adapte au rugby qui change parce que le rugby a changé. Et puis moi, il y a un exemple qui règle un peu le problème quand même. Il prend l'Angleterre, c'est pas facile. L'Angleterre en 2015, elle sort d'une Coupe du Monde, ils sont sortis en phase de poule. Ils n'ont pas fait
à domicile.
Ils n'ont pas fait le grand chelem, les Anglais, depuis 2000.
C'est pas la Nord non plus. L'Angleterre,
il faut les grands chelem derrière.
Laisse-moi aller jusqu'au bout. Eddie Jones, il est en janvier 2016, il est nommé sélectionneur de l'Angleterre. Ils n'ont pas fait le grand chelem depuis 2003. Depuis 2003, il y a zéro grand chelem. Il arrive deux mois plus tard, il y a grand chelem.
Ça, c'est l'argument qui tue. Tu l'as tué, là, le gros.
Tu l'as massacré, le gros. Mais par contre, non, mais ça, on parle de la Bulgarie. Mais ah oui, c'est vrai qu'ils n'avaient pas fait. Mais par contre, ils n'avaient pas fait une finale en 2007. T'as oublié de le dire, ça. Ça veut dire que toi aussi, Adrien, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Parce que t'aurais été honnête.
T'as dit, pas fait grand chelem, mais ils ont fait
Oui, mais c'est pas faux ce que j'ai dit. Mais c'est pas faux. Mais c'est pas tout à fait juste. Parce qu'ils ont fait une finale en 2007 de Coupe du Monde.
Oui, non, mais donc, ça fait rien. 2007 et 2007 est sa finale.
Mais quand ça fait Eric. Je comprends que
dans le tour de
la brume du Sora, avec Eddie Jones, avec Denis,
12 ans, c'est une génération. Il arrive dans une génération sinistrée et remet son pays.
En 2015, ils ont déjà une bonne équipe.
Thomas qu'on va accueillir au 32-16 supporters du 4 Olympiques. S'il vous plaît, un peu de discipline, on n'y comprend plus rien là, s'il vous plaît tous.
Bien sûr.
Thomas, au 32-16 supporters de Castres. Stop, Thomas.
Supporters de Castres.
Oui, allô.
Bonjour Thomas.
Bonjour à tous.
Alors, est-ce que pour toi, Eddie Jones aura marqué l'histoire du rugby?
Alors, Eddie Jones marqué l'histoire du rugby, un gars qui donne des raisonnements comme ça et coach de l'Angleterre, c'est pas évident pour moi de le dire. Donc alors, à la question, je vais répondre non. Le mec, effectivement, il a fait un super travail avec le Japon. Derrière, il est arrivé équipe d'Angleterre. Là, ce que j'écoutais, soi-disant, c'était des pompes. Enfin, quand on voit la génération qu'il a eue derrière... Et il a raté la dernière marche, quoi. Et le gars... Voilà.
T'es d'accord avec tonton Vincent?
Ça, c'est un échec énorme. Échec énorme avec la génération qu'il avait. Échec énorme.
Ouais, mais non, mais
vous me parlez. Parle-moi de Clive Woodward, alors.
Alors, Clive Woodward, est-ce qu'il a marqué l'histoire du rugby?
Champion du monde de l'Angleterre. Bien sûr qu'il a marqué.
Il y avait une génération, allez, un peu moindre, avec un joueur en or. Mais il a gagné.
Ouais, bon, après,
la génération Wilkinson. Non, mais allez, là, on peut pas parler de rugby avec eux. Allez, on arrête. Venez, on passe à l'autre.
Devant,
ils étaient moins bons que nous.
Et il dit que la génération était moins bonne.
Eh bien, c'est nous, quel rapport entre la génération et faire le plus beau match? Ça n'a rien à voir.
En 2019, mais en 2003, c'était les démonstres, tous, à tous les postes.
La prochaine fois qu'on fait un débat comme ça, on ne prend pas Vincent, on ne prend pas les rugbyman, on le fait pour nous.
Et justement, tu me dis,
Vincent, merci Eric. Ce soir, on va peut-être Denis.
Vincent, et à juste titre, peut-être, tu me dis, quand je parle du palmarès d'Eddie Jones, tu me dis, tu parles que des mariages, Adrien, et pas que des enterrements. Tu classes Bernard Laporte dans les plus grands entraîneurs de l'histoire, disons la vérité quand même. Quand tu fais 4 finales de top 14 avec Toulon et que tu en perds 3, il faut dire aussi la vérité, il y a aussi des enterrements. Et là, ce sont des échecs en finale. Trois échecs en finale de 14 sur 4 finales.
Tu parles de demi-finale de Coupe du Monde. Donc, demi-finale. Et puis trois fois champion d'Europe. T'es complètement dingue. Gabriel. Mais arrête, il me fait sauter encore une fois.
Parlons de ce qui ne va pas. Bernard Laporte avec Toulon, c'est 4 finales, 3 perdus.
Mais tu me sors.
Mais non, mais
t'es fou, Adrien. Mais t'es quand même fou.
Les Marseillais, il a raison. Il a raison. Le raisonnement qu'avait ça sur
les trois champions d'Europe,
il faut l'écouter les autres.
Stop, c'est pas possible. C'est pas
fou. T'es fou,
Vincent, pour finir. C'est le même exemple qu'avec Eddie Jones.
Mais tu gagnes trois fois. Est-ce que ça te viendrait de dire que deux, trois fois il a pas été champion de France, champion d'Espagne, Zidane au Real Madrid, il a gagné trois coupes d'Europe au Real Madrid. Bernard est le seul à avoir gagné trois coupes d'Europe.
Mais Adrien, fou,
quoi. Il a fait gagner ça comme le Stade Toulousain. Écoute-moi, Adrien.
Mais quand tu as gagné ça, t'as rien à dire, Adrien.
Eddie Jones, dont on va peut-être parler l'an prochain, s'il signe au Racing, on ne sait jamais.
Non, mais ce serait, ou dans un ou deux ans, je ne sais pas, après la Coupe du Monde, a priori. Non, mais s'il signe au Racing, il est en top 14, on les connaît bien, nos amis du Racing, on l'invite dans le Moscato Show. C'est fait.
Ah, il viendra en plus.
C'est fait.
C'est sûr.
Alors, on invite Richard Poole Jones en même temps, il fait la trad. Et...
tout le bien qu'il pense de lui, d'ailleurs.
Non, en plus, je suis sûr que vu les caractères, les postes, etc., en deux minutes, son copain.
Allez, dans un instant, Romain Sazi, invité du Moscato Show après le titre de champion d'Europe de La Rochelle. Et puis Djoko débat avant Roland Garros. Tient-il sa revanche après l'épisode de l'Open d'Australie? À tout de suite.
RMC, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le Super Moscato Show jusqu'à 18h. Ça continue sur RMC. Dans une demi-heure, ce sera un débat sur l'Olympique de Marseille. Mmh. L'avenir est-il radieux? Il se passe beaucoup de choses là en ce moment. Le mercato bat son plein à Marseille.
C'est toujours chaud à l'OM. Toujours chaud, mais Ligue des Champions, hein, c'est fait, Pierrot.
Ah bah, qualif assuré grâce à cette deuxième place. Du coup, on avait fait le débat dès le lendemain. Mais d'abord, nous allons nous remémorer un des grands moments de la saison, de la fin de saison en tout cas. La finale européenne remportée par La Rochelle face au Leinster. Et Romain Sazi, l'homme qui a fait à plus de la moitié de sa carrière à La Rochelle, et qui était notre invité au surlendemain de ce succès.
RMC, le cri du cœur
du Super Moscato Show.
50 centimètres. C'est pas fini encore. Max Kelton, Aura, Botia.
À gauche, donne-le à gauche.
Oh, attention. Que veut dire Monsieur Barnes? Vidéo.
Lève le bras, Wayne.
Il finit à jouer.
Quelle finale.
SC.
Ils sont champions d'Europe.
5.
4.
3. Ils sont champions d'Europe.
Allez, le cri du cœur, il est pour l'emblème
ridicule,
de La Rochelle.
Allez.
Mais t'as gagné toi le faire. Il est de La Rochelle, il a fait ses classes à l'école de rugby.
C'est comme ça. D'un garçon de 14 ans qui était en train de muer.
L'emblématique ex-capitaine de La Rochelle, Romain Sazi, est en direct avec nous. Salut Romain.
Bonjour tout le monde. Bonjour.
Salut Romain.
Ouais, ça va, Romain.
12 saisons avec La Rochelle et champion d'Europe pour ton 300e match.
Ouais, fabuleux. Donc voilà, on couronne un peu les efforts de tout le monde et on est très content, même si hein. On est très fatigué, mais on est super content.
Il
n'y
a
fabuleux.
Pas beaucoup de voix non plus.
Ouais, il en reste un peu.
Tu t'es couché très tôt, tu m'as dit tout à l'heure au téléphone.
Ouais, je sais plus trop là.
7h,
le jour tout de la semaine, je sais pas. Ouais, c'était. Non, mais non, pas dormi la veille, donc un peu dur, mais on continue là. On est en place, il y a encore toute l'équipe, le trophée est là, donc je le vois, c'est bon.
C'est quand la reprise de l'entraînement du coup? Parce que vous avez le top 14 à jouer, le dernier match dimanche.
Exactement. Mais on attend le planning, mais on l'a toujours pas reçu, donc on va l'avoir. Il y a pas de souci.
Parce que Ronan O'Gara est du genre à se perdre aussi parfois, peut-être dans les troisième mi-temps.
Alors, on est avec Romain Sazi, donc le deuxième ligne de La Rochelle. Tu entres à 5 minutes de la fin. C'était au moment le plus fou de cette finale, là où vous le gagnez, mais là où tout est à faire, puisqu'il y a 10 minutes à peu près de pilonnage dans les 5 mètres du Leinster. Raconte-nous, toi, comment tu vis ces 5 dernières minutes?
Ben déjà, je pense que j'ai fait le moins de déplacements sur un match de rugby. C'est vrai, comme tu dis, on est resté vraiment sur les 5 mètres. Après, on les sentait un peu affaiblis et on avait qu'une envie, c'était de les enfoncer, comme on dit, sur les mêlées. Et je crois qu'on a 2-3 avantages, on continue et on a persisté et ça a fini par craquer. Donc c'était fabuleux. Ouais, je pense que le scénario et la délivrance du match, elle est parfaite.
C'est un scénario qui est incroyable. C'est fou parce que à un moment donné, ils se mettent tellement en défense, Leicester, tu te dis putain, ça va pas, c'est pas possible, ça va pas passer. Et puis même toi, tu devais le sentir sur le terrain, cet engouement, mais ça passait pas, c'est stérile. Et au moment où ça marque, c'est une explosion. Est-ce que tu te rappelles la sensation que t'as eue quand le demi-dernier oui, marque, quand il marque, la sensation que t'as eue, elle a dû être Arthur. Extraordinaire, non?
Ouais, mais sur les 5 minutes, c'est vrai que surtout je me suis dit, va pas faire l'en avant si tu rates pas 5 minutes, si c'est toi le responsable de l'en avant ou, ah ouais. ou d'une faute ou quoi, on savait que ça pouvait tourner quoi. Donc là, je peux t'assurer que c'était, ouais, c'était 5 minutes assez bizarre. Mais la délivrance était fabuleuse et surtout le. Enfin, je sais pas, on attendait, on pensait qu'il y avait le renvoi après, donc on était en place. Hein. Puis au final on voit le chrono défiler et je sais pas, les secondes, c'était. Elles m'ont paru une éternité. J'ai dit mais on y va, on y est. Je me rendais pas encore compte qu'on l'avait fait, qu'on était champion. Et quand je vois là, 80, je vois le tableau, je dis c'est bon, on est champion. Et puis là, un sentiment bizarre qui t'envahit. Et ouais, je pense que j'ai eu quelques larmes, un peu d'émotion. C'était, ouais, c'était peut-être la première fois sur un terrain, c'était vraiment une sensation exceptionnelle pour ce club vraiment particulier.
Si vous faites un doublé, pitié, faites pas un film comme Toulouse.
Non, il n'y aura pas de film, par contre, on se retrouvera au Pila, promis, pour voilà.
Il y a un match à Houston aussi, les babasques. Romain,
il faudrait pas qu'il t'embauche à Houston, parce que moi, nous, on fait partie de la NASA. Il faudrait pas qu'il t'embauche.
Merci beaucoup, Romain. Et félicitations à toute l'équipe. On t'embrasse, Romain.
Merci beaucoup.
Les meilleurs moments du Super Moscato Show continuent. Et bien sûr, on continuera de débattre de La Rochelle l'année prochaine. Dans un quart d'heure, c'est apostrophe. Mais d'abord, débat sur Novak Djokovic avant Roland Garros. On pensait tous, il en était le grand favori, hein, on pensait tous qu'il allait s'imposer. Tient-il sa revanche, Djoko? C'était exactement le 17 mai sur RMC.
RMC, le Super Moscato Show. Sylvester Stallone est de retour dans le rôle de Rambo.
Je suis très content avec mon match.
Rambo est le meilleur ancien combattant que j'ai jamais connu.
Je joue très bien.
Il veut s'en sortir. Par n'importe quel moyen.
Oui, je suis un petit plus, un one step closer.
Rambo, ce que les autres appellent l'enfer, il appelle ça chez lui.
C'est fini! Novak Djokovic, c'est de sa première remontada en finale d'un grand chelem.
Rambo 2. La mission. Breaking
news. Donc on parle de Roland Garros. Alors c'est un Roland Garros avec un Nadal très diminué, une fameuse next gen Vincent qui n'arrive pas à tuer le père et un Alcaraz peut-être encore next un peu gen. Tendre pour gagner un grand chelem.
Next gen.
C'est vrai que ça te plairait la next gen.
Ah ouais, là, c'est...
Alors du coup le favori c'est Djoko et alors il est de plus en plus favori. Il était le grand perdant du début d'année 2022. Quelques semaines après, tient-il déjà sa revanche? Va-t-il enfin faire ce qu'il aurait dû faire depuis l'US Open ou en Australie, c'est-à-dire devenir le plus titré de tous les temps, rejoindre dans un premier temps Nadal, ça peut être sur la quinzaine de Roland. Eric Salio est avec nous justement en direct de Roland Garros.
Voilà, salut Eric.
Salut à tous.
C'est la Jospin.
Alors Eric, on va voir un Djoko au top sur cette quinzaine.
Bah, c'est vrai qu'à Monte Carlo, et on s'en souvient, on avait débattu là-dessus, sa conférence de presse d'après défaite avait un petit peu interpellé. Il venait d'exploser physiquement face à l'Espagnol Davidovic et il semblait prêt à licencier tout son staff. 10 jours plus tard, en finale à Belgrade, il encaissait un cinglant 6-0 au troisième set face à Andrei Rublev. Là, clairement, il y avait un problème. Mais ça, c'était avant. Parce qu'en mai, Novak Djokovic est redevenu Novak Djokovic. Certes, il a dû serrer la main au vaincu de Carlos Alcaraz à Madrid, mais à Rome, au Foro Italico, qui est un peu sa deuxième maison, il a éparpillé la concurrence à son puzzle. Il a décroché sa 1000e victoire, rejoignant Connors, Lendl, Federer et Nadal. Une vraie fierté pour un joueur qui veut laisser une trace dans l'histoire. Il va débouler à Roland avec l'étiquette de favori, ça ne fait aucun doute. Et c'est vrai qu'il faudrait être très costaud pour aller le chercher. On saura jeudi soir, ça c'est important, s'il a des chances de croiser Alcaraz ou Nadal en quart de finale. Mais le garçon est en mission. La mission, elle est simple, c'est ramener le 21e chelem. Nadal a pu profiter de son absence pour raison extrasportive à Melbourne pour prendre de l'avance. Moi je dis qu'une égalisation dimanche 5 juin n'étonnerait personne. Pour résumer, l'allié de Rafa pourrait être Carlitos,
ah oui,
surnom d'Alcaraz.
Carlitos,
tu nous fais vibrer, Eric. Eric, tu nous fais vibrer. Tu nous fais une tonne.
J'ai déjà réussi mon Roland, non?
Oui.
Et allez sur mon compte Twitter, j'ai fait une photo fantastique.
Eric, t'as gagné le tournoi de la presse à Roland, pas il y a quelques années?
Oui, au mois de septembre, bien sûr.
Tu nous as feuilletonné ça, tu nous as mis des ruptures, tu nous as fait vivre ce truc. On s'est régalé, je te jure.
Est-ce que c'est le Roland de Djoko? Est-ce que tu le vois gagner le 21e?
Ah, il va être difficile à prendre. Alors là, je vais te dire un truc. Autant c'est vrai qu'il nous avait surpris par justement cette reprise un peu plus qu'en dents de scie. Il avait explosé. Il avait sauté sur une mine. Il avait explosé physiquement. Le manque, comme quoi l'entraînement ne remplace jamais les jeux. Ça remplace jamais le match. C'est pas possible. Tu peux essayer de compenser, mais quand ça fait longtemps que t'as pas joué, en général, tu repasses par ça, par une petite explosion. Lui, il nous avait surpris. Moi, j'y croyais pas. Je pensais qu'il allait performer de suite. Mais là, il a remis le couvert. Djoko est revenu. Il va Roland Garros, Nadal. Lui aussi, c'est à son tour. Il a sauté sur une mine aussi. Il a un pied beau à la place du pied droit. Donc, écoute-moi, je pense que tout est aligné. Oui, je mets un billet, mais je mets un billet sur lui grave. Parce que en plus, il va vouloir se taper. C'est un challenge pour lui de se taper le mec qui est à la mode en ce moment. Ça, c'est le genre de mec qui vieillit. Quand tu vieillis, tu supportes pas les mecs à la mode. Tu supportes pas quand tu te recrutes un mec à côté, comme dit tout le monde tout le temps. T'as vu le petit demi de mêlée? Machonneau, quand on a été à Machonneau, qu'on a parlé de l'autre demi-démêlé, le jeune
Nolan,
il était fou. Après, il m'en a parlé, il m'a dit, tu vois, moi je fais abstraction parce que c'est très dérangeant pour moi et tout. Tu crois que Djoko, il a pas envie de le manger, le petit chorizo? Il a même envie de le croquer et il va arriver, il va gagner Roland Garros, je vous la donne. Je mets un billet sur lui parce que bon, on va pas faire.
Regarde-toi, 30 ans après, t'as toujours pas digéré Jean-Michel Gonzalez.
Oui.
C'est tout dire.
Hein. Et c'est vrai.
Écoute-moi, j'en ai des rétros de caravane, il me faut pour les voir derrière à Cavadams. C'est pas des rétros de mobilettes, des rétros de caravane.
Cavadams,
je suis d'accord avec Vincent. Un bémol. Le bémol pour moi, c'est si Alcaraz.
C'est les entrées qui comptent.
Si Djoko ne prend pas Alcaraz avant la finale.
Alors vas-y, répète.
Je pense que le bémol, qu'il faut que Djoko prenne Alcaraz en finale.
Pourquoi?
Parce que l'expérience, c'est toujours le rugby.
Justement, il pense que ça sera plus facile pour Djoko en finale qu'Alcaraz qu'en
quart. Si Franck Alcaraz ou quart ou en demi, c'est pas la même.
Ça sera chaud. Tous les quarts et tous les demi avec les deux
sont. Tu vois bien La Rochelle l'année dernière. T'as une pression qui n'est pas la même.
Et puis en finale,
c'est le central. Djoko, il a joué, je sais pas combien de finales de Roland. Pour moi, ça change la donne. Je dis pas que j'ai raison.
La première finale, tu l'as réussi ou tu l'as raté?
Oui, bien sûr, réussi. Si, bon, les trois essais, on est parti. Bon, alors... on a pris le Brennus sous le bras. Après Djoko, c'est un monstre, voilà, de résilience. Ce mec, il est pas fait comme les autres, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est pas qu'il fait peur, c'est que tu sais pas comment le battre. On l'a vu l'an passé, il a quand même sorti Nadal en demi et il est revenu de l'enfer face à Tsitsipas. Donc voilà, il connaît parfaitement sa copie. Et puis je pense que le seul qui peut vraiment qui peut le contrarier, c'est le petit, le jeune.
Après, moi, je vous trouve tous dithyrambiques sur Carlos Alcaraz. Certes, il a fait un début de saison fantastique, mais là, on parle quand même d'un grand chelem. Le gamin, il n'a aucune référence au meilleur des cinq manches. Il va falloir qu'il gagne sept matchs. La pression de Roland Garros. Il y a d'autres joueurs à la place d'Alcaraz. Je vois un Tsitsipas. Par contre, pour revenir sur Djoko, le processus de reprise après son absence à l'Open d'Australie et les tournois qu'il ne pouvait pas jouer aux États-Unis, il est normal, en fait. Manque de repères, bon, il se fait taper à Monte-Carlo. Et après, tu vois la progression, en fait, l'habitude des matchs, les points importants.
Tu mettrais un billet sur lui.
Moi, clairement.
Il te fait peur.
Moi, je le vois à la Rome face à Tsitsipas, qui est censé être le meilleur joueur sur ta battue actuellement avec 6-0, 7-6. Ouais. C'est quand même, c'est énorme pour mettre 6-0 à Tsitsipas en finale d'un Masters 1000. Ça veut dire que le mec est un monstre, le mec est au-dessus. Et Djoko, il est au niveau qui était le sien l'année dernière quand il était prétendant.
Justement, l'année dernière, parce qu'on a beaucoup parlé du vaccin, du fait qu'il puisse pas jouer, etc. Mais il est resté quand même, Vincent, et on en a beaucoup parlé, ça t'avait surpris. Il est resté sur un échec total avant toutes ces histoires-là. À l'US Open face à Medvedev, où il est pris
par l'enjeu de ce 21e Grand Chelem et mentalement, il craque complètement.
Oui, mais souvenez-vous, mais c'était les circonstances différentes.
Alors, il est en larmes parce que d'un coup, il est soutenu par le public.
C'est pas pareil.
Il a craqué. Est-ce qu'il est toujours dans ce mode-là? Est-ce qu'il va avoir peur de le gagner ce 21e?
Mais moi, je crois que ce mec, il est redoutable. Le problème, son ennemi, lui, c'est lui. C'est son, sa psychologie. Soit qu'il est dépressif. Ce mec, il peut être dépressif. Je crois qu'il peut tomber très, très bas dans sa tronche parce qu'autrement, tennistiquement, sportivement, physiquement, c'est le plus fort. Mais le problème, c'est que des fois, on le voit d'ailleurs. Il craque, il se merde.
Depuis quelques temps, on le sent.
Tu vois, il avait besoin de cet amour alors qu'il devait toujours cultiver le conflit. Il était tout le temps dans le conflit, tout le temps. Et puis là, à un moment donné, il a dit non, mais moi, ce que je veux, c'est de l'amour. Je veux qu'on m'applaudisse et tout ça. Et puis après, boum, il se met le monde à dos contre les vaccins. Les vaccins, c'était simple de dire bon, mais je me fais vacciner comme des milliards de mecs. Et puis voilà, alors, on est tous des moutons, mais oui, peut-être. Mais à un moment donné, il faut l'être. Tu vois, t'es pas docteur non plus pour nous expliquer qu'il faut pas être vacciné. Donc, allez, on y revient avec de la haine, de la bave dans la vie. Et là, il sort le père. Voilà. Boum, à tout, là, le père. Là. Alors là, le père, on l'avait pas vu, ça nous a fait du bien de le voir quand même. Le père, pour comprendre la psychologie du fils. Le père était fou. C'est-à-dire, le père, il peut tuer 10 personnes. S'il est dans un bus, il peut, à 200 froid, à main nue. Donc, on a compris. Donc, après, il a des petites pètes psychologiques. Là, il est revenu plein badin. Il va éclater tout le monde. De la charpie.
Craquage, il faut se rappeler que c'était particulier. C'était le quatrième grand chelem de la saison. Il avait gagné les trois. Il pouvait faire quelque chose.
Ça va être particulier à Roland aussi. S'il a une finale pour le 21e, ça va être incroyable.
Il a gagné l'Open d'Australie, c'est différent. La pression psychologique est totalement différente. À Roland, il a gagné l'année dernière à Roland Garros. Là, il y a une fraîcheur physique, il faut prendre en compte tous les mecs, ils ont joué depuis le début de saison. Lui, il n'a pas joué, il va arriver.
Ok,
mais il faut compter les 1 an de plus qu'il a. C'est ça que tu comptes, tu ne prends pas en compte.
Oui, mais il n'est pas blessé.
Oui, oui, non, mais
Nadal, il est blessé.
Oui, mais il n'a pas joué pendant un moment, il est revenu, il s'est entraîné, c'est très bien. On a manqué de rythme, c'est très bien. Mais il a 1 an de plus. On ne sait pas s'il fait des grosses chaleurs comme il est en train de faire. Tu sais pas.
Alors, Roland Garros, ils sont habitués. Il fait jouer en Australie.
Il
joue en Australie, à New York. Il fait 1000 degrés.
Mais quel âge il a, Nadal?
34,
et je te dis, un jour l'organisme il répond pas tout de suite comme tout le temps.
Ah, 34, si, quand même, regarde Benzema, tu rigoles ou quoi?
Il a dans 38 ans, il a gagné Roland quand même, il a fait un stage de 10 minutes,
Joko, il a l'âge de Sexton en fait.
Tu vois, Sexton, ouais. Mais moins de commotion. Voilà. Moins de commotion. Quoique, avec le vieux qu'il a, il a peut-être fait des commotions dans sa jeunesse.
Revanche, on n'a pas parlé de l'aspect psychologique revanchard, justement. Si Vincent, tu l'as dit un peu, revient là-bas à vos lèvres. Si, mais c'est sûr,
parce qu'il a vécu.
Par rapport à qui? Par rapport à lui, par rapport au monde du tennis, par rapport à Nadal.
C'est l'Australie. C'est l'Australie.
Lui.
La revanche, ça sera en janvier 2023, puis lui, quand tu l'Open d'Australie.
Pour lui, le monde entier, et c'est son moteur. Voilà. Le monde entier est contre lui. Voilà. Et c'est son moteur. Et il s'est relancé, il se ramollissait, et le Covid est venu.
Peut-être même, tu sais quoi, Vincent, tu m'as convaincu, c'est son échec à l'US Open, qui, peut-être même inconsciemment, lui a fait faire cette dinguerie avec le vaccin et l'Open d'Australie. Il s'est remis dans les conditions, peut-être, d'être Djoko, le haineux, le mal aimé.
D'avoir le monde
et c'est là qu'il est plus fort.
Et le père, que tu lui dis, mon fils,
il comprend les
fils était un...
Vincent,
Vincent, clairement,
il était bien accueilli.
Vincent, il a le même processus que Djoko, c'est-à-dire qu'au début, il aimait les insultes, et 30 ans après, il monte sur scène pour avoir de l'amour.
Voilà,
et peut-être que Djoko fera ça aussi.
Et Vincent a refusé trois fois le vaccin de la
grippe. Alors, les insultes sur scène, c'est moins bon. Je vous le dis de suite.
Novak Djokovic, qui continue sa carrière et qui a peut-être de belles années devant lui, contrairement à Roger Federer et Rafael Nadal.
Il a quasiment le même âge que Nadal, on le rappelle. à chaque fois. Hein. Alors physiquement,
il est plus en forme.
Il fait plus jeune peut-être, mais il a juste un an de moins que Rafael Nadal. 35 ans, Djoko.
Apostrophe dans un instant, Adrien.
Le clash de l'année, le clash inattendu entre deux copains en plus, Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit. Allez, à tout de suite.
RMC, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien
Higouin. Le Moscato Show continue sur RMC. Nous allons débattre de l'OM à partir de 16h. Au programme également, La Rochelle va-t-il enchaîner avec le top 14? Et croyez-vous au Messi 2.0? Oui, ça serait un grand fantasme à Paris. La deuxième saison va être meilleure, bien sûr, pour Lionel Messi. Avant cela, c'est l'heure d'apostrophe sur RMC.
RMC, c'est l'heure d'apostrophe dans le Super Moscato Show.
Et oui, c'est Jean-Henri Séguier qui parraine cette apostrophe du jour, la culture pour les truffes, puisque dans cet extrait, n'oublions jamais, il veut dire Mbappé. C'est un peu le jour de Mbappé. À la base, il veut dire Mbappé. C'est pas bien passé.
C'est un mec de Montauban, ça.
Janos Katman de Montauban. La culture pour les truffes, apostrophe, comme tous les jours à la même heure. On débute avec un record, Vincent. Alors, toi qui es dans le spectacle, dans le show, toi qui vends des billets, des tickets pour les spectacles, ça va te donner des frissons, puis tu vas nous analyser tout ça. Record battu samedi soir pour le groupe Indochine, samedi à Saint-Denis au Stade de France. C'était le début de la tournée des stades pour les 40 ans du groupe de Nicolas Sirkis. 97 000 spectateurs, Vincent, 97 000 spectateurs. C'est le record au Stade de France depuis son inauguration en 1998. Personne n'a fait mieux que Indochine. C'est quoi le ticket moyen pour Indochine? C'est du
50-60
euros.
Ah non,
non, mais ça,
non, le ticket, le ticket moyen,
moyen,
là,
moyen.
100 balles.
Ouais. 100 euros, bah, t'imagines là, ça rentre quand même.
Hein. 9 millions et 4.
Après, il faut partager, ils sont plusieurs dans le groupe.
Mais je crois que ça coûte très cher quand même, hein, non?
Ça coûte très cher. Là, ils prennent des sous.
Le Parisien aujourd'hui en France a donné quelques chiffres.
Ça reste rentable.
Il y a une tour centrale de 45 mètres de haut qui a surplombé le public. La structure soutenait un écran, nous dit le Parisien, à 360 degrés de 2500 mètres carrés. C'est un record pour un concert. Et la durée du show, Vincent, 2h45. Et la scène, 850 mètres carrés.
Ouais.
Faut savoir occuper la scène quand c'est comme ça.
Johnny, il avait les mêmes scènes.
C'est 50 sur 10, sur 20. Voilà, ouais. 50 sur 20.
Et ils vont enchaîner avec Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille, à chaque fois les stades. Franchement, c'est le plus grand
club. Johnny, à l'idée, tu me disais, mais il ne gagnait pas d'argent au Stade de France. Hein.
Ah ouais?
Non, il a toujours dit.
Non. Attention, là sur ces rentrées comme ça, c'est pour toi hein, quand même. Quand tu fais 10 boules, tu prends de l'oseille. Même si loues le truc 7 ou 800 000 balles, tu le loues 7 ou 800 000 ou 1 million, plus le machin, t'as 2 millions. Ça te reste des sous.
Tu sais comme ça vite, Pierrot, là,
t'es léger sur ce que le coût.
Tu prends la moitié.
Johnny prenait rien quand il faisait un concert.
Non, il y a des concerts où tu perds de l'argent parce que il n'y a pas
de tournée.
Sur des gros trucs. Regarde, Bigard qui avait voulu faire au Stade de France, il avait bouffé.
Johnny demandait des choses impossibles qui coûtaient très très cher. C'est pour ça
que ça va très vite.
Il déclarait à Bercy qu'il ne gagnait pas d'argent, mais c'était vrai.
97 000 spectateurs. Bravo à Douchine.
Super, on est content pour eux surtout parce que c'est quand même 40 points de carrière. Il avait passé un sale moment. Il avait dit dans un reportage que ce qui les avait tués, c'était les inconnus.
Oui,
pendant des années.
C'est normal, c'était mieux.
Non, mais
c'est toujours des inconnus.
Ça avait été terrible.
T'aimais toi Indochine, mais Piro, toi qui pas trop la musique.
Pour qui tu as dit
Sirkis.
C'était le maître de la mairie à Paris. Le combat du siècle. Le combat du week-end. Incroyable séquence sur LCI. Débat sur le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. À ma gauche, Daniel Cohn-Bendit, homme politique, homme qui a marqué l'histoire, 77 ans. À ma droite, Luc Ferry, ancien ministre, philosophe.
Ils s'entendent bien d'habitude.
71 ans, ils sont amis depuis plusieurs décennies.
Ils s'appellent Dany et machin.
Ils sont pas toujours d'accord, mais ils sont amis comme nous.
Oui.
On est en direct à la télé. Le débat.
Les deux sont brillantissimes.
Comme tu dis, Vincent, en quenouille. Et à un moment, il y a un craquage, les deux craquent, enfin il y en a un qui craque en premier, et le présentateur Adrien Gindre essaie de reprendre la main. On y va.
premier round.
Ben oui, c'est ce que je veux dire. Allez, arrête. Ben oui, mais ça, arrête, c'est arrête, compte, mais arrête, arrête.
Non,
arrête. Non, mais laisse-moi finir non, maintenant.
Mais j'en ai n'importe quoi. Mais même si je dis des conneries, c'est insupportable.
Même si je dis des conneries,
mais tu n'arrêtes pas ce que j'ai continué pour ami. La tienne, pauvre crétin.
Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je ne dis que des mensonges en ce moment.
Et Dany,
c'est mon flair. Mais c'est insupportable. Arrête de mentir.
Monsieur le pape de la vérité. Monsieur le pape de la vérité. Pour que tout le monde redescende, on va écouter ce que disait Elisabeth Borne à propos des critiques.
Ah, ça va mieux.
Bravo Adrien Gendre.
Bravo Adrien. Parce que les deux,
il a pris sa voix la plus douce, tu sais, pour essayer de rétablir l'équilibre.
C'est mon pote, c'est mon pote. Ils sont potes depuis 150 ans.
Parfois, tu t'enguirlandes avec Denis, toi.
Ça nous est quand même arrivé d'avoir envie de.
Ouais, non, mais là, la crétin en douille, machin, du menteur et pire.
Sur le terrain, il m'a dit pire et pire.
Oui, non, mais sur le terrain,
oui, mais bon, c'est lui qui dit ça.
Mais je le méritais pas.
Tu perdais pas.
C'est pas la même intensité, la même profondeur, c'est superficiel sur l'intérêt. C'est l'énervement. Mais quand même, autour de la table, et surtout eux, ils ont quand même 70 barons. 75 ans. Ils sont à 1000. C'est dommage. Je trouve que c'est dommage.
C'est ce que je veux dire. Allez, arrête. Arrête. Non, mais laisse-moi finir maintenant.
Mais j'en ai n'importe quoi. Mais
si je dis
des conneries,
c'est insupportable. Même si je dis des conneries,
je vais parler. Parce que j'ai continué pour ami. La tienne, pauvre crétin.
Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ne dis que des mensonges en ce moment.
Et Dany,
c'est
enflé.
Mais c'est insupportable. Arrête de mentir.
Monsieur le pape de la vérité. Monsieur le pape de la vérité.
Elisabeth Borne,
pour que tout le monde redescende, on va écouter ce que disait Elisabeth Borne à propos des critiques concernant Papen.
Honnêtement, comme dirait ma grand-mère, feu ma grand-mère, tu prends un pour taper sur l'autre. Hein.
C'est pas fait quel croc qui se serait arrivé.
Non, mais il manquait un arbitre. Où était-il?
Où est-il?
Non, non, non. Voilà, il aurait dû leur dire ça.
En même temps, pauvre crétin, je trouve ça.
Mais comment tu parles de
pas?
Non, mais je veux dire, c'est pas.
Ils ont fait une prison, ils ont pas des mots douches. Les gens qui sont arrivés au vestiaire, ils n'ont pas pris la douche ensemble.
Alors que vous, Denis, vous preniez la douche ensemble.
Oui, t'es
obligé. Denis, tu t'as affaire à des hommes de 75 ans qui sont des hommes de médias qui passent à la télé.
Tu sais quoi, la limite,
Marc? Qui se connaissent ou pas?
C'est signe de bonne santé.
Mais mettez des gants de boxe et ne nous faites pas honte.
Alors, Vincent, ça va te plaire. Il y a un autre personnage public qui avait un niveau de responsabilité très important qui a décidé de se lâcher ce week-end. L'ancien ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Passation avec Catherine Colonna, donc l'actuelle ministre des Affaires étrangères. Normalement, un ministre à ce niveau-là emploie toujours un langage diplomatique pour être sûr de ne vexer personne, même en temps de crise. Hein, tous les mots sont pesés. Là, il a décidé d'ouvrir un peu les vannes, de lâcher la rampe. Il vient d'apprendre la défaite du premier ministre australien aux législatives, Scott Morrison. Vous souvenez le contrat des sous-marins, ce qu'on a appelé nous dans le Moscato Show la Golden Carrot. Le contrat a été cassé au dernier moment par l'Australie. Jean-Yves Le Drian décide de mettre de côté son droit de réserve. C'est rare. Écoutez, c'était le discours de l'heure de la passation.
Je ne vais pas m'empêcher de dire que la défaite du Premier ministre Morrison me convient très bien. Parce que les actes posés à l'égard de la France, au moment où ils ont été posés, étaient d'une brutalité, d'un cynisme. Et je serais même tenté de dire d'une forme d'incompétence notoire. Et ça me fait plaisir de vous le dire ce soir. Et je ne sais pas si, il a pensé à la concordance ou la concomitance des dates. Mais s'il y a pensé, c'est bien pour lui. S'il n'y a pas pensé, c'est tant pis pour lui. J'espère que nous pourrons renouer avec l'Australie. Un dialogue franc et constructif dans l'avenir, c'est ce que je le souhaite.
Oui,
après, là, il avait Poutine. Il a dit, je tenais à vous dire qu'il n'est pas très sympa.
C'est rare d'entendre un homme comme ça.
Oui, mais une fois que t'es rangé.
Oui, mais il y a ceux qui suivent derrière.
Parce que je pense que ça, quand même, lui, Le Drian, c'est un type. Moi, je trouve que c'est un des plus brillants. Et crois-moi, il en a souffert.
Le Drian?
Le Drian.
Le Drian?
Je trouve que c'était un mec qui a une savonnette posée sous le talon de la suivante. Il te fout un pâte dans la main. Il dit, maintenant, je me cache.
C'est un métier où, en général, après moi, le déluge.
Ça fait un an qu'il doit se retenir, là, il s'est dit, allez, j'y vais. Quoi.
Ouais, c'est dommage qu'il soit retenu quand il était. Quand il était, c'est là qu'il faut le dire, parce que tout le monde se retient, il n'y a plus rien qui se dit. C'est là qu'il faut. L'édito.
Oh
cet extrait-là, on va le réentendre, je pense, assez régulièrement. Hein.
Il est devenu déjà un jingle. Hein. C'est un des jingles d'apostrophe.
Allez, dans un instant, on revient avec débat sur l'OM. L'avenir est-il radieux? À tout de suite, c'est le Super Moscato Show.
RMC, le meilleur du Super Moscato Show.